Bonsoir les auditeurs, amis des livres et des apéros. Le bonheur ennuie tout le monde. Rien de plus rasoir qu'un amour sans nuage ou qu'un humain bien dans sa peau. On veut des soubresauts, des blessures secrètes, des doubles fonds. Par exemple, le couple Emmanuel Macron-Brigitte Trogneux ne serait-il pas factice ? François Fillon est-il absolument serein ? On cherche la faille. Nous touchent les auteurs dont le mal-être affleure, tel Michel Houellebecq. En France, l'artiste doit toujours être un peu maudit. Marchent les films, les chansons, les livres dramatiques. D'ailleurs, le Goncourt a couronné Chanson douce. L'histoire d'un couple dont le bonheur apparent est un leurre. Bref, on est sûr, il n'y a pas de livre heureux. Hein ? S'exclame la littérature. Mais qu'est-ce que c'est que ces clichés ? Oh, mais qu'est-ce qu'elle est triste, cette Dupont-Mono, mais n'importe quoi, c'est exactement l'inverse. Le bonheur est un moteur, et il ne faut pas du tout être dépressif pour être écrivain. Dans ses essais, Montaigne, très heureux de vivre par ailleurs, a défilé une morale de l'instant et du plaisir. Et quels sont les derniers mots de Voltaire à la fin de son poème Le Mondain ? Il écrit « Le paradis terrestre est où je suis ». Et oui, en littérature, on est heureux même quand on dort. Sur le visage endormi de Pauline, un rêve passait, la clarté rapide d'un sourire, écrit Émile Zola dans « La joie de vivre ». Et on peut même mourir heureux, c'est un sourire aux lèvres que Cyrano de Bergerac rend l'âme. Et s'il fallait encore une preuve, elle est là, dans un recueil nommé « Comme une respiration », signé Jean Tellet aux éditions Julliard. Ce sont des toutes petites nouvelles, des morceaux d'existence glanés par Jean Tellet. Il y avait « Vie minuscule » de Pierre Michon, « Microfiction » de Régis Geoffrey. Eh ben, voici leur versant rigolard et confiant. Ces petites tranches de vie colorées racontent une vieille dame qui danse, un enfant qui retrouve son prénom, un animal qui échappe à la mort, une couturière qui entend le grondement de mai 68 ou un collégien admis à l'école de ses rêves. Et tous ces personnages ont un point commun, à un moment, ils décident d'être heureux. Ça a l'air naïf, ça ne l'est pas. Jean Tellet évite l'angélisme au profit d'une grande tendresse et son écriture, qui emprunte autant à Michel Audiard qu'au conteur de Veillée, y est pour beaucoup. Alors, le temps d'un apéro, nous partagerons un amuse-bouche avec Jean Tellet et nous sourirons la bouche pleine, tant pis. Il nous livrera ses secrets d'écriture comme on s'allège d'un poids, ce sera le procès-verbal, nous révélera ses vices culturels cachés, car le bonheur, c'est aussi assumer son mauvais goût, ce sera les inavouables, avant qu'un libraire ne vienne à son tour nous offrir ses petites joies de papier.
France Inter, l'amuse-bouche, Clara Dupont-Mono.
Bonsoir Jean Tellet.
Bonsoir Madame Clara.
On ne fait pas de bons livres avec de bons sentiments, disait André Gide. Ouais,
mais moi je précise toujours, mais Gide, je l'emmerde.
Voilà. La question c'était, vous vouliez donner tort à André Gide.
Ouais, quel con. Pourquoi ?
Parce que jusqu'à présent, on vous attendait en tout cas sur les grands noms de François Villon à Verlaine, en passant par Charlie Neuf. Et là, en fait, vous prenez des gens ordinaires.
Oui, mais j'avais envie de faire le contraire de ce que j'avais fait avant. C'est vrai qu'avant, je racontais que des histoires horribles, et même si c'était avec de la rigolade et tout. Mais comme beaucoup de gens, évidemment, j'ai été très marqué par la série d'attentes en France, notamment par ceux de Charlie, où tous les dessinateurs qui ont été butés étaient tous des copains. Et c'était au moment où je cherchais une idée d'un nouveau livre, et j'avais pas envie d'entrer en concurrence, en surenchère, dans l'horreur et tout. Là, j'avais tout d'un coup eu un sentiment bizarre, j'avais envie de répondre par du calme, par de la douceur. Puis c'est comme ça qu'est venue l'idée de ce livre.
Alors on dit genre ordinaire, et puis en même temps, le professeur Choron disait de vous, quand Tellet arrive dans une ville, les fous sortent.
Ouais. Quand je travaillais à l'Assiette Anglaise, je faisais des reportages sur des gens originaux, ou bien en bande dessinée, j'avais fait un truc qui s'appelait Jean de France et d'ailleurs et tout. Quand j'allais dans une ville pour rencontrer quelqu'un, évidemment, je préparais tout avant, j'avais qui j'allais voir et tout. Et peu à peu, je me suis aperçu que ça servait à rien. Que si j'arrivais dans une ville, s'il y avait un dingo, il me tombait dessus. Et ça m'est même arrivé, je crois que c'est à Limoges, où c'est dans la gare qu'il y a un mec qui m'est tombé dessus et tout. Et je suis jamais rentré dans la ville. J'ai fait le reportage dans la gare.
Avec le monsieur dingo.
Et c'est vrai qu'à un moment, je les attirais. Je disais souvent que j'étais un aspirateur à dingue.
Bah, regardez votre présence ici avec moi. C'est bien, vous les attirez encore.
Et bah voilà.
Alors quand on écrit sur le bonheur, Jean Tellet, est-ce qu'il n'y a pas un risque de... Ah, je l'ai au bout de la langue. « d'angélisme. Oui. Voilà, merci l'amuse-bouche. Vous aviez en tête ce piège de l'angélisme en écrivant sur le bonheur.
Oui, oui.
C'était le truc à pas faire.
Ben oui, et c'est pour ça que j'ai eu envie de le faire. Et puis moi, je me dis, maintenant, j'ai 63 ans, je fais strictement ce que je veux et tout. Déjà, avant, je me suis pas tellement emmerdé à faire ce que je voulais, mais là, et j'avais envie de tenter ça. Et puis, parce qu'en fait, c'est plus compliqué d'aller du côté des belles choses, d'aller du côté de la tendresse et tout. C'est finalement assez simple de raconter des horreurs et là j'avais envie de tenter ce coup-là, tout en me disant, et si ça se trouve je vais me ramasser et puis ça va pas, les gens vont pas du tout adhérer, et coup de bol, c'est exactement le contraire qui se passe, mais j'avais envie de tenter ça.
Le résultat, c'est qu'on est dans la tête d'un taxidermiste, d'un pêcheur, d'un motard, on est à Dunkerque, on est à Toulon. Alors concrètement, comment vous avez fabriqué ce livre? Vous avez sillonné la France pour rencontrer les gens?
Oui, c'était au moment où je faisais la promo du livre précédent, Héloïse Houille, et où j'allais dans plein de villes de province, soit dans des salons du livre ou des librairies. Et à chaque fois, je demandais à plein de gens, est-ce qu'il vous est arrivé dans votre vie de vivre une situation difficile, n'importe laquelle et dans n'importe quel domaine, mais où à la fin, waouh, vous avez respiré.
Et vous vous êtes posé la question à vous-même.
Mais alors justement, les gens, quand je leur disais ça, souvent, ils me disaient, mais et vous est arrivé ça? Et alors j'ai réfléchi, puis j'ai pas réfléchi longtemps, et j'ai vite trouvé une histoire, effectivement, où moi j'avais vécu ça grâce à un professeur de dessin. Quand j'étais en classe de 3e, j'étais le dernier de la classe, et puis au conseil d'orientation, on m'a collé en mécanique auto. Et le lendemain, je me rappelle, je retourne au collège, et on commençait par le cours de dessin, et puis je faisais la tronche, et le prof de dessin passe dans les allées, il me dit, bah, t'en fais une tête toi aujourd'hui, d'habitude t'as l'air plutôt joyeux et là tu fais une drôle de gueule, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, bah hier on m'a collé en mécanique auto. Il me dit, mais non, t'es plutôt bon en dessin, tu pourrais rentrer dans une école de dessin. Et moi je savais pas que ça existait. J'ai dit, mais il y a des écoles, on fait que dessiner, ça existe ça? Il me dit, oui, oui. Il dit, évidemment, c'est très difficile, il y a 500 candidats et on prend que les 50 premiers, c'est sur concours qu'on y rentre. Et presque tous les soirs, il me faisait travailler, il dessine ta main, et dessine le vase, et recommence la fleur, et ceci, et il fait bosser. Puis un jour, j'arrive à l'endroit pour le concours.
Ah, mais racontez pas la fin.
Mais non.
Et oui,
mais voilà.
Sinon, c'est pour que les auditeurs.
Mais vous avez
après...
bien raison. Mais en tout cas, voilà.
En parlant d'enfants, il y a un texte, Jean Tellier, qui s'appelle Lui, qui raconte un enfant de la DAS malheureux. Alors, entre autres, parce qu'il n'a pas de prénom. De façon générale, dans vos textes, l'enfant, il est toujours un peu esselé. Et ça m'a rappelé un autre texte.
L'orphelinat, c'est la seule solution. Il travaille pas, il mange, il grandit, il faut l'habiller. Il
bouge pas, attends, voilà.
Une ruine.
C'est cet enfant-là qui vous gêne? Parce que moi, je me disais que cet enfant-là pouvait me rendre quelques services dans mon métier.
Hé hey, quel métier?
Artiste.
Voyez-vous ça? Et vous devriez me prendre cet enfant qui travaille à la ferme, qui aide, qui est courageux, qui n'enchine pas la besogne?
Qu'il faut nourrir, qu'il faut habiller.
Et vous avez pensé à la douleur de ma femme et à la mienne s'il fallait le quitter? Allez, 50 francs.
Sans famille d'Hector Malo, un téléfilm de 2000 de Jean-Daniel Vérague. Sans famille d'Hector Malo, ça a été une lecture fondatrice.
Ah ouais, ça a été le premier livre que j'ai adoré, mais adoré. Et moi, j'avais envie d'être Rémi, j'avais envie d'être avec ce vieux monsieur Vitali, puis les petits animaux, le montreur d'ours et tout ça. Et, oh ouais, ouais, ouais,
qu'est-ce vous que lisiez pas beaucoup, enfant?
Non, je lisais quand j'étais malade, quand j'avais la scarlatine, des trucs comme ça. Ma mère, elle m'achetait plein de livres de la bibliothèque verte, mais autrement non, je les ai pas beaucoup.
Comme quoi, on peut être écrivain sans partir avec une culture littéraire.
Ouais, mais même maintenant, je lis presque jamais de romans. Je crois que dans ma vie, j'ai dû en lire une quarantaine. Hein, c'est pas beaucoup.
Par contre, vous arrivez à dire je suis écrivain aujourd'hui?
Oui, parce que j'écris et puis je suis payé pour ça et j'en vis, donc je dis écrivain. Mais ouais.
Vous avez une grande amie qui s'appelle Florence Sestac. Mmh. Et ben, écoutez ce qu'elle dit elle de son dessin.
Ça m'est absolument indispensable parce que si on m'arrête de dessiner, je meurs. Donc le dessin, pour moi, c'est vital, quoi.
Et c'est vraiment le dessin. Qu'est-ce qu'on entend par le dessin?
Le dessin, c'est de tenir un crayon entre les doigts et de gribouiller quelque chose sur du papier blanc. C'est le geste de dessiner, de poser le coude comme ça, la main, le là. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de relais avec le cerveau et j'ai besoin de m'exprimer, que ça sort par le bout de mes doigts.
Est-ce que c'est pareil pour vous avec l'écriture, Jean Tellet? Est-ce que si vous arrêtez d'écrire, vous mourrez ou alors ça c'est angélique?
Non, non, mais moi j'ai jamais voulu faire écrivain. J'ai jamais voulu faire aucun des métiers que j'ai fait. J'ai fait de la bande dessinée parce qu'un dessinateur qui s'appelait André Barbe avait vu des dessins chez une copine à lui, des dessins de moi. Il m'a dit, mais ce type, faut qu'il fasse de la bande dessinée. Je me suis mis à faire de la bande dessinée. Je n'en lisais pas.
À l'Écho des Savanes.
À l'Écho des Savanes. Ensuite, c'est Bernard Rapp qui un jour m'a appelé en me disant, ah, j'ai lu vos BD reportages, je vais arrêter de présenter le 20h pour faire une nouvelle émission qui va s'appeler L'Assiette Anglaise. Je me suis mis à faire de la télé. Alors, je n'avais pas la télé. Et puis un jour, une éditrice qui s'appelait Elisabeth Gilles m'a appelé à Canal en me disant, voilà, je suis l'éditrice de Julliard, ça fait des années que je vous entends à la télé, ça fait des années que je me dis qu'en fait, vous êtes un écrivain qui ne le savait pas. Venez, je vous signe un contrat. Et c'est comme ça que c'est venu. Et le premier truc que j'ai dit, mais moi, j'ai jamais voulu être écrivain. Non, non, c'est pas comme Florence. Mais ceci dit, moi, ça me plaît beaucoup de faire ce métier. C'est un métier, il n'y a personne qui vous donne d'ordre. Je me lève quand je veux. Et ça, quand j'étais enfant, je disais souvent ça quand les gens me disaient... Mais mon petit, qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras grand et tout? Je disais toujours un métier où on se lève quand on n'a plus envie de dormir. Quand j'étais enfant et que j'étais en plein rêve et que ma mère me secouait pour me dire qu'il fallait aller à l'école, je trouvais ça insupportable. Je n'avais pas fini mon rêve. Moi maintenant, je me lève quand j'ai fini mon rêve. Et je me dis, c'est ça être riche, pas autre chose.
Et bien moi aussi, je me lèverai quand j'aurai fini mon rêve, tout à l'heure à la fin de cette émission. Vous voyez, pour vous, on a cherché en plus une chanson sur le bonheur, Jean Tellet. C'est assez costaud à trouver, hein.
Ouais,
c'est
hein.
Pas évident. Et bien c'est Alain Chamfort qui nous a sauvés, parce que quand il fredonne Paradis, c'est une certaine idée du bonheur. Jean Tellet est avec nous jusqu'à 20h. Son livre « Comme une respiration » est une compile d'exquises petites tranches de vie heureuses, comme quoi les gens heureux ont plein d'histoires. Et en parlant de gens heureux, Jean Tellet, d'abord, vous avez siroté un petit apéro avant de venir.
Mais oui, c'est la dernière émission que je fais sur ce livre. Et d'habitude, je suis très sérieux, je bois un café ou un verre d'eau et tout. Et comme c'est une émission apéritive, eh ben, je suis allé au bar des ondes à côté de la maison de la radio et me suis pris un Americano. J'ai
vous
jamais fait ça.
Vous avez eu raison.
Voilà.
Et toujours en parlant de gens heureux, est-ce que cette idée de livre, c'est-à-dire la petite compile de gens heureux, vous ne l'auriez pas eue grâce à France Inter?
Si, exactement. Ah. Tout ça, c'est parce que un jour, moi qui refuse absolument tout ce qu'on propose, un jour à France Inter, on m'a demandé, parce qu'ils ont fait ça un moment, dans la matinale de Patrick Cohen, de donner une carte blanche, je crois que c'était le jeudi, à des écrivains, toutes les semaines, comme ça. Et puis un jour, on m'a demandé ça, et puis c'était pour la veille du printemps, et j'avais écrit une histoire sur ma maison en Bretagne, une maison que... Et c'est la première histoire de ce livre-là. Et quand j'avais raconté ça dans la matinale d'Inter. Après, j'avais un rendez-vous à Radio-Canada, puis je me dis, oh ben tiens, plutôt que d'y aller en métro, je vais y aller à pied. Puis j'ai longé les quais de la Seine, et là, je tombais sur des bouquinistes qui me reconnaissaient, qui me disaient, alors le prochain livre, c'est quoi? Un truc sur Robespierre, ça serait bien, la terreur par vous. Et puis des gens qui me disaient, oh, c'était bien ce que vous avez raconté ce matin. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, les gens ont l'air d'aimer ça. Et puis le lendemain est arrivée la deuxième histoire, j'allais dédicacer à Rouen, et puis je prends le train pour revenir, et puis j'ai failli assister à un fait divers, et en arrivant à Gare Saint-Lazare, je me suis dit, eh ben, c'est ce livre-là que
je l'ai.
Donc sans la matinale d'Inter, j'aurais pas écrit ce livre-là.
La forme de ce texte, elle est assez proche d'un livre qui s'appelle Vie minuscule de Pierre Michon, aussi de microfiction de Régis Geoffrey.
Je connais bien Geoffrey. Ouais.
C'était des références que vous aviez en tête avant de vous y mettre?
Non.
D'ailleurs, en parlant de Régis Geoffrey, eh ben, lui, il a aussi une idée précise du bonheur.
J'ai rien contre le bonheur. J'ai quelque chose contre la contrainte. J'ai quelque chose contre cette espèce d'obligation supplémentaire. Si vous voulez, c'est un peu comme si c'était un nouveau baccalauréat qu'on nous donne à passer et que ce soit le bonheur. C'est-à-dire que maintenant, quand les gens ont des enfants, ils disent l'important c'est qu'ils soient heureux. On dit plus je vous présente mes deux fils, l'un c'est le docteur, il a 7 ans, l'autre c'est l'avocat qui a 10 ans. On dit écoutez, voilà mes deux enfants, j'espère qu'ils seront épanouis et qu'ils seront heureux. Alors que le bonheur n'est pas un état qui peut durer toute une vie.
Il dit plusieurs choses, Régis Geoffrey. Il dit notamment, il y a une forme d'obligation du bonheur, l'idée que le bonheur est une contrainte.
Et il a raison. Le bonheur obligatoire, c'est insupportable. Moi, je me souviens une fois, je suis allé avec mon fils, quand il était tout petit, dans un club de vacances le plus célèbre qui existe. Et j'ai appris qu'il y avait quelqu'un, un vacancier qui était décédé dans le club de vacances. Donc, il fallait faire venir une voiture, ambulance, ça, genre truc corbillard et tout, pour dégager le corps. Mais c'était impossible, parce que tout était sur le bonheur. Ils ont fait un truc incroyable, et je vous jure que c'est vrai, c'est qu'ils ont mis le corps du vacancier mort sur un brancard, et deux géos, habillés en clown, tenaient les trucs et ont quitté le camp comme ça en cavalant, en poussant des cris et tout. Parce que c'était bonheur obligatoire. Et je trouvais ça mais insupportable. Le bonheur obligatoire, ça peut être vraiment une sorte de dictature infernale.
Dans ce livre, vous avez mis des photos, des poèmes raturés, il y a des dessins. Vous aviez envie d'autre chose que les mots?
Oui, j'avais envie de faire un livre complètement libre, de me lâcher de tout ce que j'avais pu faire avant. Et je me disais, après tout, j'étais dessinateur, donc à un moment, il y a une petite bande dessinée en 3 pages avec les bulles qui sont vides, c'est aux gens de les remplir. J'aimais la poésie, j'aime toujours la poésie, donc j'avais écrit un poème, et puis il y a les 2/3 du poème, je me dis, oh, peut-être que c'est pas super. Alors, je l'ai barré, mais en même temps, on peut le lire quand même. Je voulais me donner une liberté totale, quoi.
Et en même temps, vous parliez tout à l'heure de bande dessinée. Depuis que vous êtes dans la bande dessinée, donc, c'est-à-dire depuis que vous travaillez, vous dessinez des histoires vraies. Dans Circus, la revue de bande dessinée Circus, vous aviez pris Christine Villemain comme personnage. Ouais, ouais. Vous avez quelque chose avec les histoires vraies de vraies.
Ouais.
C'est l'estampille réelle qui vous emballe.
Mais
c'est quoi?
Non, c'est un lieu commun où on dit la réalité dépasse la fiction. Mais bon sang que c'est vrai. La réalité est plus dingue que l'imagination.
Et parfois elle l'écrase même.
Ben oui, bien sûr. Ouais.
Alors à un moment, il y a une fille seule dans un train. Des gars entrent en beuglant Booba, dans le Booba. Finalement, ils vont l'aider à porter sa valise. Dans une autre nouvelle, on lit un musicien qui ne peut pas prendre l'avion à cause d'un excédent de bagages. Et ben, les membres du groupe, ils vont se grouper ensemble. Ils vont vider sa valise, enfiler tous ses vêtements, justement pour vider sa valise. Est-ce que Jean Telet, c'est un livre sur le vivre ensemble?
Mais oui, de se supporter tous, les uns les autres. Et moi, par exemple, qui suis quelqu'un de gauche et très déçu en ce moment, j'ai des copains d'extrême droite qui votent le Pen. Et ben, ce sont vraiment des amis. C'est vraiment des gens bien. Et je leur dis, mais pourquoi vous votez ça? Puis après, je les emmerde plus avec ça parce que je connais beaucoup de gens de gauche que je considère comme de vrais connards. Qu'après tout, on peut tous vivre ensemble. Il y a pour tous les goûts et tout. Et puis voilà.
Alors, politiquement parlant, cette notion de vivre ensemble, c'est tout récent et ça donne ça.
Ma candidature est celle de la conciliation. Elle est celle de la réconciliation.
Est-ce qu'on peut dire du coup que la littérature peut tenter de faire ce que la politique n'arrive plus à faire.
Oui, de fédérer les gens autour de quelque chose. Oui. Moi, je vois ça. Quand je vais dans les séances de dédicaces, je rencontre des gens d'âges différents, de sexes différents, très certainement d'orientation politique très différente. Et puis, tous ces gens-là ont l'air de se rassembler, sur, par exemple, sur un livre que j'ai écrit et tout. Oh, je me dis, c'est bien. Et puis, moi, j'ai pas envie qu'il y ait que des clones de moi sur Terre. Ça m'ennuierait, mais ça me plaît qu'il y ait une diversité totale et tout, bien sûr.
Dans ce recueil Comme une respiration, il y a un texte que vous aviez écrit en préface à une bande dessinée de votre amie Florence Sestac, Les filles des oiseaux. Et cette bande dessinée, elle racontait un pensionnat des années 60. Et vous écrivez, je cite, « Après l'emmerdement des soutanes avec ses mortifications de silice, voilà la chierie des djellabas avec ses prisons de grillagés de burqa. Jésus, paraît-il, n'aurait jamais ri de sa vie et Mahomet ne semble pas avoir mangé un clown. » Pourquoi elle vous hérisse, la religion ?
Oh, ça, c'est l'étonnement de ma vie. Dans les années 68, jamais j'aurais cru que ce 21e siècle allait basculer à ce point dans les religions. Mais ça me sidère. Donc, évidemment, l'islam et tout ça, mais les catholiques, pareil. Hein, dire les gens qui reviennent sur le droit à l'avortement et trucs comme ça. Mais ça me paraît, toutes les religions, me paraissent tellement une histoire de Père Noël pour adultes. Je ne peux pas comprendre comment des gens peuvent croire à tout ça.
À l'inverse, est-ce que vous comprenez la foi ?
Non.
Non plus.
Du tout, non, non. Non, on est, puis quand on est mort, on est mort. Et puis je trouve que c'est une arnaque fantastique, parce que c'est toujours... là, vous allez en chier sur Terre, bon, on est bien d'accord. Mais alors, après, putain, alors les 10 000 vierges, les machins, le paradis et tout. Et on nous promet le bonheur pour après la mort. Moi, je préférerais qu'on nous le promette pour avant. Voilà, un côté pragmatique, simple. Et mais ça, je suis mais absolument ahuri par ça.
Alors, cela dit, vous avez été invité par l'ambassade de France au Vatican et vous y êtes allé.
Mais oui.
Alors.
Mais j'ai cru qu'ils s'étaient gourés d'écrivains.
Ah bah
et je
non,
me suis dit, quand
vous.
Je vais descendre de l'avion, ils vont se dire, mais putain, on s'est gourés d'écrivains. Et moi, je leur ai parlé comme je vous parle et tout. Quand j'ai fait des dédicaces et même pour Héloïse Houille et tout ça, je dessinais mes paires de couilles et tout. Et il y a une sorte d'archevêque ou je sais pas quoi du Vatican, quand je suis revenu, qui m'a écrit une lettre où il m'a dit « Vous êtes l'écrivain le plus grossier qu'on ait jamais reçu, tout ça, et vous serez le premier averti si votre corps est dépassé. » Et je n'ai depuis plus de nouvelles. Donc, mais ça m'a fait rigoler d'aller au Vatican. Ouais.
En parlant de corps qui se dépasse, je crois que c'était les mots de monsieur du Vatican, Jean Tollet, certains sont heureux en se déshabillant, ça va être votre cas, au sens figuré bien sûr. Vous allez nous livrer vos secrets d'écriture, c'est l'heure du procès-verbal. Quelle transition quand même, voilà. Vous avez vu, vous la connaissez cette séquence, ouais. Vous l'écoutez. Votre nom.
Tollet.
Votre prénom.
Jean.
Vous écrivez assis, couché ou debout?
Assis.
Sur ordinateur ou sur papier?
Sur papier, avec un crayon à papier et avec une manie, c'est que les feuilles de papier, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on passe la main sur le côté, quand elles sont massicotées, il y a toujours un petit côté qui rebique. Et moi, à chaque fois, avec l'ongle, je racle pour que quand je passe la main sur le papier, que ça agrippe pas.
Vous êtes chez vous ou au café?
Non, ni l'un ni l'autre, dans un petit bureau qui se trouve dans un ancien garage juste à côté de mon appartement.
Musique ou grand silence?
Silence absolu.
Le téléphone sonne, est-ce que vous décrochez?
Non, pas toujours, non, non, non. Et puis pas de décor dans mon bureau, juste une photo de classe et rien d'autre.
Une photo de classe?
Ouais, une photo de classe de l'école primaire où je suis en classe avec Jean-Paul Gaultier. Et lui, dans son bureau, il a exactement la même photo, mais on a le même cadre. Et tous les deux, on a ça dans notre bureau. C'est assez marrant, ça.
Vous pouvez pester à voix haute, éclater de rire,
ronchonner. Ouais, ça m'est arrivé d'éclater de rire en écrivant des trucs, ouais.
Merci Jean Tollet, vous êtes libre du procès verbal. J'espère que notre duo vous rend heureux.
Oh ouais.
Voilà, c'était aussi pour placer duo, le mot duo, pour annoncer celui qui va chanter. C'était une histoire de transition.
Ah ouais, c'est un métier, hein, la radio. Hein.
Nick Waterhouse et Léon Bridge. Non mais c'est foireux. C'est catchy et ça rend joyeux. She give me cotton. Vous écoutez la Muse-Bouche sur France Inter jusqu'à 20h. Notre invité, c'est Jean Tellet pour Comme une respiration, paru chez Julliard. Et s'il y a bien un peuple qui est une respiration à lui seul, un souffle vital, ce sont les libraires qui ont pris, je ne sais pas pourquoi, la drôle d'habitude de nous appeler. Mais alors, ça, oh que
tiens.
Que disais-je? Allô?
C'est Marie, j'appelle pour l'apéro.
Mais Marie... Bonsoir Marie Michaud de la librairie Gibert à Poitiers. Soyez la bienvenue Marie, il n'y a que des gens heureux ici. Quelle est la situation? Eh bien voilà, c'est pour ça que vous appelez. Et Marie, quelle est la situation la plus farfelue que vous avez eue dans votre boutique?
Aux dernières vacances à la Toussaint, un couple de quadragénaires est venu avec leur fils ado passer à ma caisse avec les œuvres de Plaute. Et la maman s'est tournée vers son fils en lui disant d'un air... ravi, tu vas voir, tu vas te régaler, c'est tellement drôle. Et à la tête du garçon, je pense que pour un ado dont les vacances commençaient par la perspective de cette lecture, peut-être pas si désopilante que ça.
Mais oui, c'est ça, un siècle,
un peu compliqué.
Un siècle d'humour mormon. Mais si, lis, je t'assure, ça va être drôle. Marie, quel est le livre que vous conseilleriez à notre invité Jean Tellet?
Eh bien écoutez, j'ai choisi pour Jean Tellet le livre d'Alberto Cavana, L'homme qui ne comptait pas les jours, aux éditions de La Fosse aux Ours. L'histoire d'un jeune garçon, un jeune homme tunisien qui vient d'arriver en Europe et qui fait la rencontre d'un vieil homme italien qui fabrique, comme son grand-père, de l'autre côté de la Méditerranée, des bateaux. Et ce jeune homme va aider le vieil homme à fabriquer effectivement le bateau qui est son dernier rêve. Alors pourquoi j'ai choisi ça pour Jean Tellet? Ben parce qu'effectivement, son nouveau livre ouvrait vers plus d'optimisme et de douceur, et j'ai trouvé que ce livre, qui partait d'une situation effectivement difficile, celle des migrants, était très positif, en ce sens que voilà, c'est plein de bons sentiments.
Sans tomber dans la guimauve alors.
C'est porté par une écriture extrêmement poétique. Ça tombe jamais dans la guimauve, ça tombe jamais dans le pseudo bon sentiment qui se regarde.
Ah ben c'est pour Jean Tellet. Vous nous redonnez les références, Marie, de ce livre?
Oui, Alberto Cavana, L'homme qui ne comptait pas les jours, aux éditions de La Fosse aux Ours.
Merci Marie de la librairie Gibert à Poitiers et merci au magazine Page, la revue des libraires heureux. Marie, on vous attend pour un apéro festif. Vous raccrochez, vous venez.
Merci, à tout de suite. Alors.
À tout de suite. Jean Tellet pour nous, c'est l'heure des inavouables. Ah ben oui,
ouais.
On a beau être un docteur S-bonheur, on n'en est pas moins faillible.
Eh ben ouais.
J'ai le regret de vous l'annoncer. Y a-t-il un livre, un film, une chanson que vous aimez en toute discrétion?
Moi, il y a une chanson que j'adore qui est une chanson de C. Jérôme, « Et tu danses avec lui ». Et je connaissais C. Jérôme, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il était très gentil, ce mec. Et à chaque fois, je lui disais « Ta chanson, là, mais c'est pour moi, c'est la plus belle chanson du monde et tout. » Et à chaque fois, il me disait « Mais tu dis ça parce que tu le penses ou c'est pour te foutre de ma gueule ?» Et il a jamais cru. Et je lui redisais à chaque fois que « Oh, vous connaissez cette chanson ?» Il faut imaginer la scène. Il y a un mec, il est dans une boîte de nuit ou je sais pas quoi. Il y a sa gonzesse qui est en train de danser avec un autre. Et elle, visiblement, elle en devient dingue et tout. Et l'autre, il est là et ça lui déchire le cœur. Et tu danses avec lui.
Et tu danses avec lui. Abandonné.
Avec lui,
avec lui,
oh.
Lui,
lui. Ce con là.
On adore.
Oh, c'est génial.
C'est quelque chose quand même.
Mais c'est génial.
C'est quelque chose.
Ça déchire le cœur, ça. Moi, je m'identifie à ce mec. Et je dis, oh, ça c'est. Chanson écrite par Barbe Livia.
En 1985.
Oh là là.
Et 1985 est un excellent cru, Jean Tellet, puisque c'est également l'année de Je marche seul de Jean-Jacques Goldman.
Mm-hmm.
Et là, je m'incline aussi.
Ouais, mais je préfère étudiant, ça
vient. Oui, je vous
ça,
comprends.
Ça déchire, ça.
Est-ce qu'il y a un classique qui vous tombe des mains?
Ah, Madame Bovary, hein, ça, j'ai jamais
compris. Oh, vous n'aimez pas Madame Bovary? Et alors, qu'est-ce qu'elle vous a
c'est
fait?
C'est l'histoire d'une grosse conne. Et à part remuer son cul dans un fiacre quand elle se fait sauter, elle avait qu'à se casser, aller faire des heures de ménage et tout, plutôt que de nous faire chier. Et d'ailleurs, Flaubert pensait comme moi. Et il a écrit un moment, elle commence à me faire chier cette conne qui prend son cul pour un cœur. Je pense comme Flaubert.
C'est aussi un personnage en quête de bonheur qui est assez proche.
Elle a qu'à se barrer. Si elle n'est pas bien avec son mec, elle se remue le cul et puis elle va faire des heures de ménage à l'autre bout de la France et puis ça va, là, plutôt que de pleurnicher sur son sort et tout. Oh là là, quelle idiote. Alors.
Bon, bah, c'est sur ces paroles définitives et malgré tout, le beau visage d'Emma Bovary que nous allons ranger les amuse-bouches et passer à table. Venez même malheureux, vous ne le serez pas longtemps. Comme une respiration de Jean Tellet est parue chez Julliard, la semaine prochaine, nous retrouverons Elisabeth Badinter pour Le pouvoir au féminin chez Flammarion. L'amuse-bouche doit sa joie de vivre à Marie-Annick Rimbaud, Claire-Sophie Collet, Thierry Dupin et Henri Bérec. Restons dans la bonne humeur avec Expression Directe tout de suite après nous. Après 20h, ce sera D'ici, d'ailleurs, de Zoé Varier. Bonne semaine à vous Jean Tellet.
Et merci Clara.
N'oubliez pas de faire travailler vos zygomatiques et de lire, ça change aussi la vie, c'est la même chose. Je vous embrasse, à samedi prochain.